En plein contexte révolutionnaire, Olympe de Gouges se bat pour l'égalité juridique et légale des femmes et des hommes. Elle publie ainsi la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, soit 2 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle pastiche en partie pour réparer l'oubli déplorable des droits des femmes. En effet, la Révolution ne leur accorde ni le droit de vote, ni l'accès aux institutions publiques ou aux libertés professionnelles, ni le droit de propriété, c'est-à-dire des droits que l'Assemblée constituante a reconnus aux hommes. Olympe de Gouges prend donc la plume pour mener un combat en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, afin d'élargir et d'appliquer aux femmes les revendications des hommes. Ce texte inclassable mêle style juridique, écriture pamphlétaire et énergie du plaidoyer. L'extrait étudié prend place entre la dédicace à la reine et le préambule de la déclaration. Ici, l'autrice interpelle vigoureusement l'homme, au singulier, et le somme de se justifier en le mettant face à une vérité scandaleuse. Le mâle humain est une exception dans la nature par le traitement inéquitable qu'il réserve à sa compagne, abus de pouvoir qu'il commet tout en prétendant à l'égalité. Je vais à présent lire le texte. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Olympe de Gouges se réclame du droit naturel pour interpeller les hommes qui revendiquent l'égalité. En effet, l'égalité ne pourra pas être complètement réalisée tant qu'elle ne s'appliquera pas aux femmes. La variété et l'expressivité des types de phrases soulignent l'indignation de l'autrice. Nous verrons donc en quoi cette invocation solennelle et polémique constitue un vibrant acte de révolte. Le texte comprend 3 paragraphes qui en dessinent le mouvement. Dans le premier paragraphe, lignes 1 à 5, Gouges interpelle l'homme par une adresse expressive, le sommant de se justifier. Dans le deuxième paragraphe, lignes 6 à 10, Gouges invite fermement l'homme à observer la nature afin qu'il réalise que l'harmonie des sexes y est la règle et qu'il la bafoue. Dans le troisième paragraphe, lignes 11 à 15, elle fustige, non sans une pointe d'ironie, l'arrogance de l'homme qui s'arroge des droits qu'il dénie à sa compagne. Dans le premier mouvement, lignes 1 à 5, Olympe de Gouges s'appuie donc sur une adresse expressive qui mêle l'interrogation à l'injonction pour interpeller l'homme et le sommer de se justifier. Dans la phrase inaugurale du premier paragraphe, elle apostrophe « l'homme ». Employé sans déterminant, ce nom au singulier générique permet d'identifier le destinataire, autrement dit, le groupe des hommes. Cette apostrophe est immédiatement suivie d'une question qui, de toute évidence, est rhétorique tant elle est provocatrice. En posant la question « es-tu capable d'être juste ?», Olympe de Gouges place d'emblée son discours sur le plan de la justice, tout en signalant une faiblesse, une incapacité des hommes à faire régner la justice et l'égalité. On peut relever une autre fonction du singulier « homme », qui est de permettre le face-à-face avec l'énonciatrice qui se présente à lui dans la deuxième phrase. C'est une femme qui t'en fait la question. On voit d'emblée émerger 2 figures. Dans ce texte, réplique miniature d'une salle de procès. L'homme, qui a jusqu'à présent conçu le droit, est face à lui, accusatrice, une femme qui représente toutes les autres et qui revendique le partage équitable de ce droit. On ne peut manquer de noter dans toute l'ironie portée par l'expression adverbiale à nuances restrictives, du moins, ligne 2. Elle suggère l'étendue des injustes dépossessions dont les femmes continuent d'être victimes. Mais dans un vigoureux retournement, Olympe de Gouges se dresse face à l'homme. Elle l'apostrophe par un impératif lapidaire, « dis-moi », qu'elle redouble d'une nouvelle interrogation rhétorique dans laquelle les rôles sont clairement identifiés. Gouges représente la communauté des femmes qu'elle nomme du générique « mon sexe », tandis que l'homme est représenté par le verbe « opprimer » comme un oppresseur. Elle interroge la légitimité de ce souverain empire, ligne 2. Nom repris 3 lignes plus loin et accompagné par l'adjectif péjoratif « tyrannique » qui le disqualifie sans équivoque. 2 brèves interrogations, « ta force, tes talents », ligne 3, font mine de formuler une ébauche de réponse, mais elles sont elles aussi rhétoriques. La locutrice les balaie alors d'un revers de main pour enjoindre l'homme de se référer à la seule autorité qu'elle reconnaisse, le créateur et la nature, ce qu'elle montre par des compléments médioratifs, dans sa sagesse, ligne 3, et dans toute sa grandeur, ligne 4. Trois verbes à l'impératif, observe, parcours et donne-moi, ligne 3-4, mettent ici l'homme en demeure de se livrer à un examen du monde et de la nature. Notons que Gouge ne se prive pas d'égratigner l'honneur de l'homme par des adverbes ironiques. L'expression modalisée « dont tu sembles vouloir te rapprocher » ou la subordonnée hypothétique « si tu l'oses », ligne 4, rétablissent une hiérarchie incontestable entre l'homme et la nature. Après avoir planté le cadre de son discours et formulé un défi accusateur, Gouge, dans le deuxième paragraphe, invite fermement l'homme à observer la nature pour réaliser que l'harmonie des sexes est la règle et qu'il la bafoue. Ce sont ici les phrases injonctives qui dominent. Dans la première phrase, segmentée en trois parties par des points-virgules, Olympe de Gouge s'appuie sur la juxtaposition de propositions injonctives pour indiquer à l'homme une méthode, un cheminement, qui lui permettent de comparer son action à celle de la nature. La première partie de la phrase, ligne 6-7, comporte quatre verbes à l'impératif. Remonte, consulte, étudie, jette un coup d'œil. Ils invitent l'homme à un inventaire méthodique et exhaustif du monde naturel. Les animaux, les éléments, les végétaux et la matière organisée. Les impératifs suivants, rends-toi à l'évidence, cherche, fouille et distingue, ligne 7-8, pousse l'homme dans ses derniers retranchements en lui proposant un examen presque scientifique de l'organisation du monde, ce que Gouge appelle l'administration de la nature, ligne 9. Elle attend que cet exercice presque expérimental permette une édification de l'homme confronté à l'évidence, ligne 7. On ne peut manquer de noter ici la position de léger surplomb discrètement ironique de l'autrice dans les propositions circonstancielles « quand je t'en offre les moyens » ou « si tu le peux », ligne 8. On comprend que Gouge se place face à l'homme en tutrice avisée. La deuxième phrase formule la conclusion de cette enquête. Elle s'appuie sur l'anaphore hyperbolique de l'adverbe « partout » et sur des adverbes très assertifs. « Tu trouveras » au futur et « il coopère » au présent de vérité générale. L'éloge de l'équilibre qui règne dans la nature est rendu perceptible par l'adjectif mélioratif « harmonieux » ainsi que par le préfixe « cum » au début des termes « confondu » et « coopère » ligne 9, cum qui exprime en latin l'idée de relation et d'association. Enfin, cet éloge culmine avec l'expression hyperbolique « ce chef-d'œuvre immortel », ligne 10, pointant en creux l'imperfection des œuvres de l'homme, créature immortelle. Après avoir conduit l'homme et ses lectrices et lecteurs à examiner la perfection de et l'équilibre de la nature, Gouge, dans le troisième paragraphe, abandonne la deuxième personne. Elle ne s'adresse plus à l'homme, mais elle parle de lui à la troisième personne du singulier pour fustiger, non sans une pointe d'ironie, son arrogance. Il s'arroge en effet des droits qu'il ose dénier à sa compagne. Le sujet des verbes du troisième paragraphe, l'homme, est d'emblée qualifié par l'épithète seul qui l'isole dans la nature et l'oppose à elle. Le verbe « se fagoter » ligne 11 est péjoratif. Il connote une opération artisanale, exécutée à la hâte et sans soin. En l'utilisant, Gouge ôte toute légitimité à l'inégalité qui régit la société. Elle cible ainsi, ironiquement, l'opération malhonnête menée par les hommes qui ont érigé l'exception en principe, ligne 11, autrement dit l'inégalité, en loi. Dès lors, la charge devient plus vive. La phrase suivante s'ouvre en effet sur une cascade de qualificatifs extrêmement péjoratifs. Ils sont classés par ordre taille croissante, de deux syllabes, bizarre et aveugle, puis de cinq syllabes, boursouflé de science, et dégénéré, ce qui semble mimer l'étonnement croissant, voire l'horreur de la locutrice. On ne peut manquer de noter le caractère très concret de ces termes qui donnent presque à l'homme les traits d'une créature très disgracieuse qui détonne quelque peu dans le règne harmonieux de la nature. La succession de ces adjectifs virulents est complétée par deux compléments circonstanciels antithétiques montrant que les hommes, par leur attitude envers les femmes, s'opposent non seulement à la nature, mais aussi à leur propre époque. Au complément « dans ce siècle de lumière et de sagacité » s'oppose ainsi le complément « dans l'ignorance la plus crasse », ligne 12-13. Cette première partie de la phrase montre donc que les hommes contredisent l'idée de progrès tant prisée par les lumières et atteignent leurs limites par leur entêtement à ne pas reconnaître les femmes comme leur égale. Les deux indépendantes juxtaposées qui composent la suite de cette phrase, ligne 13 à 15, constituent l'aboutissement du passage. Elles illustrent l'aveuglement et l'entêtement dans lesquels s'enferme l'homme, d'ailleurs toujours nommé au singulier, ce qui renforce l'impression d'une position hégémonique abusive. Olympe de Gouge souligne la contradiction de l'attitude de l'homme qui veut commandé en despote sur un siècle qui a reçu toutes les facultés intellectuelles, tout en espérant jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité. Tout ça, c'est ligne 13-14. Elle exhibe une nouvelle fois l'incohérence et l'arrogance de l'homme par l'usage de verbes modalisateurs, vouloir, ligne 13, et prétendre, ligne 14. En conclusion, on peut dire que la révolte est ici perceptible. On prend conscience dans ce texte de l'ambition de son autrice. Réparer l'oubli fondamental de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en réclamant pour les femmes les mêmes droits que les hommes sur les plans civiques, juridiques et économiques. Pour cela, Olympe de Gouges s'affranchit de sa position de mineure et après avoir dédié sa déclaration à la reine, elle interpelle les hommes, responsables quel que soit leur statut social, de l'oppression des femmes. Ce texte vif est animé par des phrases interrogatives et injonctives qui servent la vigueur de l'apostrophe. Immédiatement suivies par le préambule et par la déclaration, qui sont portées par les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation, ce texte est à rapprocher par sa forme de l'adresse aux femmes qui ouvrent le postambule. Là, Gouges déclare « Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. » Avec ce court texte polémique, on découvre d'emblée l'une des veines qui irrigue la déclaration qu'on ne peut pas réduire, loin de là, à un simple pastiche de la déclaration de 1789. Il apparaît bien plutôt comme un texte hybride, libre de toute contrainte formelle, à l'image de la parole de son autrice.